Vous écoutez le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 25 juin 2023 de 18 à 21h et réalisé par Virginie. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir. Deux parties en direct, comme à l'habitude. Jusqu'à 19h30, nous recevons tout d'abord Laurent Théis, qui est historien, pour la publication dans la collection bouquins de ses œuvres consacrées au roi des Francs. C'est d'ailleurs le titre de cette collection, Roi des Francs, le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux. C'est un recueil de ses publications donc sur les rois des Francs, sur une période de 5 siècles. Et puis en deuxième partie, et plus particulièrement je précise que cette émission sera consacrée à Clovis, parce que nous avions le plaisir de recevoir Laurent Théis pour un certain nombre de ses œuvres, dont par exemple Robert le Pieux, que vous pourrez lire dans ce recueil, mais nous n'avions pas traité de Clovis, c'est quand même le premier des rois francs, qui nous concerne très directement, le premier roi de France, ou roi des Francs, en tout cas, notre invité nous précisera la différence entre roi des Francs et roi de France, et comment on est d'ailleurs passé de l'un à l'autre. Mais en tout cas, cette émission sera consacrée avant tout à Clovis. Espérons qu'en 1h30, nous pourrons traiter du principal. Et puis en deuxième partie, nous traiterons d'un sujet plus d'actualité, puisque nous recevons aussi un invité régulier qui est Christophe Oberlin, qui est professeur de médecine, chirurgien, écrivain, qui va nous parler de la Palestine et pas particulièrement du Hamas à travers la publication d'un livre qu'il a traduit, d'un livre qui est consacré à l'histoire de la politique étrangère du Hamas. C'est l'occasion de parler de la Palestine. Vous savez qu'il y a beaucoup d'incidents, de graves incidents, beaucoup de victimes actuellement en Palestine. La situation est très tendue, tant en Cisjordanie qu'à Gaza. Eh bien, à travers ce livre, Histoire de la politique étrangère du Hamas, c'est la situation de la Palestine, et plus particulièrement du Hamas, que nous allons parler en son compagnie, donc à 19h30. Nous abordons maintenant la première partie de l'émission, et je vous rappelle que Marie-Hélène est au standard et qu'elle sera ravie de prendre vos messages, vos questions que nous proposons, bien sûr, à notre invité. Quand l'histoire de France a-t-elle débuté? Doit-on considérer que cette histoire a commencé avec le sacre, le baptême plutôt, de Clovis, avec son sacre à Reims, avec ses victoires à Tolbiac ou celle de Vouillé contre les Alamans en 507? C'est ce que nous dit en tout cas notre roman national. Mais notre imaginaire correspond-il à la réalité historique? Ce sont des questions auxquelles nous tenterons ce soir de répondre en évoquant la grande figure de Clovis. En effet, en matière de fierté nationale, on peut dire que Clovis succède à, en tout cas suit, parce que succéder ce n'est pas tout à fait le terme, Clovis suit en quelque sorte notre premier héros national qui est Vercingétorix, alors qu'il n'était pas roi des Francs certes, mais il a été en tout cas roi des Arvernes et chef militaire de la coalition des peuples de Gaulle. Vercingétorix, que nous avions évoqué tout récemment grâce à Yann Le Boëc. Alors certes, il ne fut pas le premier Français, il ne fut pas le premier roi des Francs, en quelque sorte, mais il fut donc ce chef de guerre fédérateur donc sur notre territoire national face à César et aux armées romaine, et c'est ainsi que Yann Le Boëc disait que Vercingétorix fut en quelque sorte le premier grand patriote sur notre territoire à se battre pour la liberté. Et puis malheureusement, après avoir vaincu César Gergovie, eh bien Vercingétorix a été vaincu, comme nous le savons tous, à Alésia, ce qui a instaura la paix et la civilisation gallo-romaine en Gaule. Et l'Empire franc, comme nous le savons, et comme nous l'explique notre roman national, eh bien, l'Empire franc succède à la Gaule gallo-romaine par la geste de Clovis, qui fut donc le premier de nos rois mérovingiens à régner sur le territoire national. Mais tout comme Vercingétorix, que savons-nous réellement de Clovis? Comment faire donc la part entre l'histoire, la légende et l'imagination? Et c'est ainsi que nous avions reçu avec grand plaisir à plusieurs reprises Laurentès, qui était venu évoquer ces rois oubliés, ces rois méconnus, ces rois mérovingiens entre la Gaule romaine et l'Empire carolingien. Ce qui est indéniable, et c'est ce qu'il nous avait présenté, et nous allons en reparler ce soir, c'est que le royaume franc se forme à la fin du 5e siècle, s'étend et s'enracine. Alors bien sûr, nous connaissons tous de ce royaume franc la personnalité, ben, il en est issu, de Charlemagne, celle de Robert le Pieux, nous connaissons Dagobert, et encore Clovis, qui est donc le fondateur de cette dynastie, donc à la tête des Francs, en tout cas des Francs unifiés sur notre territoire. Alors Laurentès rassemble dans un livre passionnant tous ses écrits sur ces rois des Francs de la haute époque jusqu'à l'avènement des Capétiens, et qui leur ont ainsi un passé trop enfoui qui renvoie au fondement même de la nation française. Et ce soir, parmi tous ces écrits qu'il a rassemblés, comme je l'expliquais dans ce recueil, dans la collection bouquin « Les rois des Francs » du haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux, eh bien, nous allons parler ce soir tout particulièrement de Clovis. Laurent Thaise, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, c'est un grand plaisir que nous vous accueillons. Merci beaucoup d'être avec nous dans le studio ce soir pour évoquer donc à la fois les Francs, parce qu'on ne peut pas parler de Clovis sans parler des Francs.
Et inversement.
Naturellement, et la manière dont ils sont arrivés en quelque sorte dans la Belgique et le nord de la France, et comment justement Clovis a-t-il pu unifier toutes les, alors je ne sais pas si le terme de tribu franc était un bon terme, mais a pu les unifier, en tout cas par les armes pour la plupart, et devenir ainsi le premier roi des Francs, enfin des Francs en tout cas en tant que roi des Francs, et sur tout ce qui correspond au territoire national qui est la France maintenant, parce qu'il y a eu des rois des Francs avant lui naturellement, c'est ce que vous allez nous expliquer, mais lui a eu cette particularité d'unir toutes les tribus franques par la conquête pour la plupart, et dont l'héritage naturellement est notre France actuelle. Alors je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien que vous êtes historien médiéviste, que vous êtes aussi membre du comité scientifique de la revue Histoire et aussi de la revue Commentaire. Vous êtes secrétaire général aussi du jury de la Fondation Napoléon. Vous avez écrit de nombreux ouvrages avec deux grands centres d'intérêt. Bien sûr, votre spécialité qui correspond au Moyen-Âge, où là, vous avez, par exemple, bon, on retrouve d'ailleurs un certain nombre de vos écrits dans cette collection bouquin, par exemple, Charles le Chauve, sur l'Empire des Francs, pour lequel nous avions eu le plaisir de vous recevoir, que vous avez publié chez Gallimard en 2021. Et puis, vous allez nous expliquer tout ce que contient, bien sûr, ce recueil. Donc, Roi des Francs, donc dans la collection bouquin. Et puis, votre autre centre d'intérêt s'exprime aussi sur un certain nombre d'autres personnalités du XIXe siècle, comme Guizot. Bon, vous avez des points communs avec Guizot, naturellement. Nous avions reçu aussi avec grand plaisir pour votre livre consacré à François Guizot, que vous avez publié chez Fayard, pardonnez-moi, et vous avez écrit, précisons-le, un livre sur Madame de Staël, La passion de la liberté, et ça, c'est chez Robert Laffont, toujours dans la collection de bouquins. Nous n'avons pas fait l'émission sur Madame de Staël.
Mais je suis toujours à votre disposition, vous savez bien.
Ça, c'est quelque chose à faire, en effet.
Mais volontiers.
C'est un personnage... Pourquoi avez-vous écrit sur Madame de Staël? Puis on va revenir, bien sûr, au Francs très rapidement, mais qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé?
Parce que je me suis intéressé, plus globalement, à la naissance du libéralisme politique en France, à travers la personnalité de François Guizot, et où je dirais que la matriarche, hein, la mère de tous les libéraux français, ou l'expression française, Guizot, Benjamin Constant, Augustin Thierry, beaucoup d'autres, c'est Germaine de Staël, qui fait la transition, au fond, entre les philosophes du XVIIIe siècle et l'histoire romantique qui a donné, peu à peu, au cours du XIXe siècle, l'histoire scientifique, et justement dont sont sortis un renouvellement des connaissances sur des personnages que vous avez évoqués, comme Vercingétorix ou Clovis.
Et c'est exact, cette anecdote qu'on raconte sur Madame de Staël et Talleyrand.
Bah, on en raconte beaucoup sur eux deux.
Sur eux deux. L'anecdote en question, c'est Talleyrand avait deux amis, deux maîtresses, en quelque sorte, à cette époque. Il y avait donc Madame de Staël et Madame de Flahou. Et Madame de Flahou était très belle.
Oui.
Mais elle n'avait peut-être pas les talents intellectuels de Germaine de Staël, qui à l'inverse était moins belle. Il y avait tout cet temps intellectuel. Et Germaine de Staël était assez jalouse de Madame de Flahou. Et un jour, elle demande à Talleyrand, maître, Madame de Flahou et moi-même tombons à l'eau. Laquelle de nous repêchez-vous en premier?
Madame de Flahou, parce que vous savez nager.
Et voilà, vous savez nager à la perfection, Germaine. C'est exact, cette anecdote?
J'en doute énormément. Oui. Mais enfin, elle montre bien l'esprit de Talleyrand et le fait qu'il avait à sa main droite et à sa main gauche deux personnalités complémentaires.
Alors, je serais heureux, effectivement, de faire une émission sur Germaine de Staël avec vous. Donc, je note que vous en êtes d'accord, ça sera avec grand plaisir. Et nous en occuperons, effectivement, après cette émission. Alors là, je reviens donc à ce que vous publiez aux éditions Bouquin, d'ailleurs, qui a fait l'objet d'une belle critique dans le Figaro littéraire récent, dans la collection Bouquin. Roi des Francs, c'est le titre, le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux. Pourquoi avez-vous regroupé dans cette collection 500 ans d'histoire, alors d'histoire des Francs, histoire de France, je ne sais pas ce qu'il faut dire d'ailleurs.
Je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé très aimablement et j'étais arrivé à un âge ou à un seuil de mon parcours où il m'a paru possible de regrouper des livres qui n'avaient pas été conçus pour se succéder dans le temps de façon, comment dirais-je, logique, rationnelle et chronologique, et que, après 40 ans d'écrits sur, en effet, Dagobert, Clovis, les Carolingiens et les premiers Capétiens, eh bien, rétrospectivement, comme c'est toujours le cas, presque toujours le cas, dans le savoir historique, s'est formée une sorte de chaîne implicite que j'ai voulu expliciter en les mettant bout à bout, non pas dans l'ordre chronologique, où ils ont été écrits, mais dans l'ordre chronologique des personnages, des règnes et des royaumes. Et ces quatre règnes, ces quatre livres, je les ai complétés par des textes intermédiaires afin de faire un lien, un continuum, comme on dit, qui mena depuis la fin du 5e siècle jusqu'au premier tiers, en effet, du 11e. Comment, comme vous l'avez déjà esquissé, les rois des Francs, ou le roi des Francs, a commencé d'être le roi de France sous le 2e Capétien.
Nous reviendrons d'ailleurs à cela. S'il vous voulez bien, je voudrais mentionner aux auditeurs de Radio Courtoisie l'introduction particulièrement intéressante que vous faites donc de ce recueil dans la collection Bouquin. Vous avez titré cette introduction « La fabrique d'un alto médiéviste ».
Ce n'est pas un genre de musicien, l'alto médiéviste. C'est simplement le haut Moyen-Âge. On ne sait pas dire autrement.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser particulièrement à cette période? Et c'est la rencontre, vous les évoquez, de deux personnalités, Georges Duby et Jacques Le Goff, que vous les évoquez dans cette introduction, deux personnalités très, très différentes. Ce sont eux qui vous ont amené à vous intéresser à cette période de l'histoire.
J'appartiens à une génération bénie. Les auditeurs doivent savoir que j'ai bientôt 75 ans et que j'appartiens donc à une génération qui a été précédée d'une autre génération qui s'est montrée particulièrement inventive d'un point de vue intellectuel et historiographique et particulièrement généreuse dans la transmission du savoir. Et des personnalités, deux personnalités, à laquelle j'ajouterai tout à l'heure une troisième, deux personnalités éminentes, aussi différentes qu'il est possible d'être dans le comportement, dans l'apparence physique, dans l'expression et aussi d'ailleurs dans la méthode historique. Georges Duby, qui avait 50 ans, quand j'ai commencé mes études du Moyen-Âge à l'école normale, et Jacques Le Goff, qui en avait 45, se sont montrés des initiateurs, des introducteurs, des ambassadeurs de la science du Moyen-Âge, à laquelle je n'étais pas naturellement prédisposé. Mais c'est en les écoutant dans un séminaire, presque par hasard, que je me suis dit, tout jeune que j'étais à l'époque, une vingtaine d'années, c'est dans cette direction qu'il faut aller, et c'est le patronage de ces maîtres qu'il faut solliciter, et c'est pourquoi, au fond, je les ai suivis, et pour finir, accompagnés, surtout Jacques Le Goff, qui est devenu un ami très proche, pendant 30 ans. J'y ajoute un historien moins connu, mais dont j'aimerais citer le nom pour nos auditeurs, qui s'appelle Bernard Guenet, membre de l'Institut, qui a tenu la chaire de l'Université Paris-Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, pendant 30 ans, et qui aussi était un spécialiste du Moyen-Âge, de la guerre de 100 ans, en gros, qui montrait comment l'héritage historiographique du fond des âges s'était solidifié dans les périodes de crise de la monarchie française, et singulièrement sous le règne de Charles VI, dont vous savez les déboires.
Et vous écrivez d'ailleurs dans cette introduction « Heureux, l'historien sur le berceau duquel se sont penchés de tels maîtres ».
Exactement.
Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement sur ces maîtres?
Alors j'appréciais chez l'un, Georges Duby, son extraordinaire faculté d'élocution à l'oral, mais surtout à l'écrit. C'est un maître du style qui a su, introduire la littérature dans le savoir historique sans le déformer. Il écrit comme un immense écrivain, non pas tant pour se faire plaisir que pour faire comprendre, que pour faire atteindre les thèmes qu'il expose, au tout venant en insufflant le principe de plaisir et d'admiration à l'intérieur de la connaissance. Jacques Le Goff, au contraire, était quelqu'un d'assez désordonné, y compris dans son apparence physique, mais qui avait toujours une jeunesse de l'esprit, une inventivité, une fraîcheur qui était communicative, et dans son expression orale, il découvrait, il trouvait, comme l'a écrit quelqu'un, peut-être moi d'ailleurs, il trouvait les motifs dans un tapis. Les motifs du tapis qu'on ne voit pas, lui voyait sortir de la masse documentaire des questions, des détails, des interrogations dont il faisait ensuite son miel et qu'il faisait partager à la ruche que nous formions avec lui.
Alors je vous propose d'en arriver à Clovis, à ce livre que vous avez publié sur Clovis, qui est donc dans ce recueil de plusieurs ouvrages consacrés au roi des Francs, donc du haut Moyen-Âge de Clovis à Robert Lepeu. Vous écrivez sur cette biographie de Clovis, en page 20 aussi de la présentation, « Une biographie de Clovis me fut commandée, destinée à prendre place en 1996 dans le tintamarre parfois grotesque et pour finir pénible du 500e anniversaire du baptême du roi ».
Oui, vous êtes trop jeune peut-être pour vous en souvenir, mon cher Thierry Delcourt, mais enfin...
Si, quand même.
En 1996, ça fait tout de même maintenant 27 ans, eh bien il y a eu, cette effervescence à la faveur hasardeuse, au hasard d'une commémoration nationale, qui en effet pouvait avoir de la signification, c'est-à-dire 1996, 1500e de la date supposée, parce qu'on ne la connaît pas exactement, du baptême de Clovis par Rémy de Reims, eh bien on s'est pris d'une espèce de concurrence qui a tourné, à mon avis, un peu à la foire d'empoigne, pour savoir ce qui s'était passé réellement en 496. Alors, on a dit que c'était la fin de l'Empire romain, on a dit que c'était le début du christianisme en France, on a dit que c'était le baptême de la France, la naissance de la France, le pape s'en est mêlé, les autorités constituées aussi, les francs-maçons sont partis à l'attaque, les catholiques ultra se sont confondus en piété, les historiens ont été un peu balayés ou exclus de ce champ des passions, qui, d'une certaine manière, peut-être sympathique, mais qui a montré, à mon avis, une sorte de, comment dirais-je, de maladie, d'une affection dont les Français étaient atteints, c'est-à-dire cette exaltation du passé qui permet de se réfugier dans un mythe pour évacuer les contraintes du présent et les menaces de l'avenir. Puisqu'on existe depuis 1500 ans, ça va peut-être durer encore quelques années, voire quelques siècles. Et à partir de là, c'est parti, je dirais, en fusée, à feu d'artifice. Mais il y avait pas mal de pétards mouillés, si vous me permettez l'expression.
Okay. Par exemple, quel genre de pétards mouillés ?
Eh bien, le fait, si vous voulez, que l'anachronisme a pris la place de la réflexion. On a fait de Clovis un contemporain, c'est tout juste si on ne l'a pas vu paraître sur des tréteaux, en nous aspergeant d'eau bénite, ou en nous expliquant que les Français étaient sortis de son ventre, ou de celui de sa femme, la reine Clotilde, et que tout s'était enchaîné merveilleusement, providentiellement, pour nous mener là où nous étions, c'est-à-dire la France éternelle. Or, la France... loin de moi l'idée de dire qu'elle n'existe pas, mais comme dit l'autre, elle a des origines, mais elle n'a pas de commencement. Donc c'est très tardivement qu'on s'est dit que Clovis pouvait être à la source de la monarchie, puis de la nation française. Il a fallu attendre en réalité une première étape pendant la guerre de Cent Ans, au XIVe et XVe siècle, et principalement au XIXe, pour renouer cette chaîne des temps. Et au fond, Clovis a rempli son office à mesure des générations, à mesure du temps qui passe, rempli les fonctions qu'on lui demandait. Il a pu le faire parce que sur lui, on était très mal renseigné. Donc on a pu en faire un guerrier, un anti-anglais, un anti-allemand, un prédécesseur de Napoléon aussi bien que Louis XIV. Bref, il a servi un peu à tous les rôles parce que justement, il était très plastique. Il était très plastique parce qu'en réalité, tout ce qu'on sait sur lui tient en une vingtaine de pages.
Oui, vous soulignez en effet cette plasticité qui est la conséquence du peu de sources, du peu de faits que l'on connaît réellement de son parcours et de son règne. Comment fait-on dans ces conditions ? C'est un peu comme pour Vercingétorix d'ailleurs. On connaît Vercingétorix surtout par les écrits de César. La guerre des Gaules. Et pour Clovis, on connaît une vingtaine de pages qui ont été écrites sur Clovis. Et quelles sont-elles et quelles sont les autres sources, s'il y en a d'autres, où Clovis est cité. Et à partir de cela, comment fait-on la part des choses entre le mythe, la légende et la réalité ?
Eh bien, les cas de Vercingétorix est intéressant à confronter à celui de Clovis, parce que dans le cas de Vercingétorix, c'est la mémoire du vaincu, puisque c'est le vainqueur qui délivre le message, et dans le cas de Clovis, c'est la mémoire du vainqueur, puisque c'est 100 ans après la mort de... 75 ans après la mort de Clovis en 511, que l'évêque de Tours, Grégoire, devenu Saint Grégoire de Tours, a entrepris un livre qui est unique, en tout cas, que nous avons conservé de façon unique, pour cette période des premiers mérovingiens, et donc qui exalte la mémoire de Clovis dans des, pour des raisons, si vous voulez, très respectables, mais qui déjà commence à tordre la réalité dans le sens d'une sanctification du parcours du roi, du premier roi chrétien des Francs. De sorte que nous disposons, en effet, presque comme un îlot conservé d'une mer qui a tout recouvert, ces livres d'histoire, ces 10 livres de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, qui déjà arrange à sa manière des éléments pour les ordonner dans un dessein providentiel. Mais évidemment, il ne part pas de rien, il utilise des éléments à sa disposition, puisqu'il écrit à Tours où la reine Clotilde était retirée, et il a construit à partir de là une histoire sacrée, mais qui contient les éléments qui nous ont servi ensuite à côté de quelques autres, comme une lettre de Rémy, de Saint-Rémy de Reims à Clovis, comme les actes d'un concile qui s'est tenu en Gaule tout à fait dans les derniers mois du règne de Clovis, une lettre aussi de l'évêque de Vienne qui a été adressée à Clovis, quelques autres éléments qui, combinés, permettent de dégager, au fond, les grandes lignes du règne de Clovis. Mais ce qui, pour moi, était le plus intéressant, ça n'était pas le règne de Clovis tel quel, c'était la façon dont il avait été construit. Parce que je partais de l'idée que même des idées fausses sont des faits vrais. Et que l'image qu'on s'est donnée de Clovis est constitutive de la réalité de Clovis telle qu'elle nous est parvenue. C'est donc par assimilation, par couches successives, j'ai fait un travail de géologue, si j'ose dire, à l'égard de Clovis, en le prenant dans ses premiers éléments, les premiers documents que nous avons et qui lui sont contemporains, et en les menant au moins jusqu'à la guerre de 14-18, et même un peu plus tard, jusqu'au général de Gaulle. Et c'est par cette sédimentation que nous avons un Clovis varié, variable, mais à mon avis, complet.
Ce document, donc l'histoire des Francs de Grégoire de Tours, c'est un document qui est fiable dans les faits, ou c'est vraiment légendé, quoi. C'est écrit un peu comme une contes et légendes, mythes, contes et légendes de Clovis, premier roi des Francs.
Ce sont des faits et des vérités qui sont mises au service d'un projet politique et surtout spirituel, qui est d'exalter l'Église catholique telle qu'elle a passé alliance avec le premier roi des Francs chrétiens, et de montrer au fond que c'est Dieu et le Christ qui ont voulu qu'il advint que les Francs soit par excellence le peuple aimé de Dieu. Et d'ailleurs, dans la loi salique, qui est attribuée faussement, mais enfin, qui est attribuée à Clovis et que les Carolingiens ont reprise, le prologue qui a été mis en tête de cette loi salique attribuée à Clovis, qui a été mis par Charlemagne, commence par dire « Vive le Christ qui aime les Francs ». Et donc, le travail de Grégoire de Tours, qui est à la jointure de la romanité et de cette dynastie, de ce royaume mérovingien, montre comment, au fond, depuis l'origine, parce que son histoire commence à Adam, que depuis les origines, il était écrit que Clovis deviendrait le roi des Francs aimé de Dieu, et que par lui, un peuple nouveau récupérerait toutes les vertus du christianisme romain, et d'ailleurs grec aussi, parce qu'il se pose en successeur de Constantin et de Théodose, pour le projeter dans l'histoire contemporaine, celle des contemporains de Grégoire de Tours. C'est donc une explication. Et les éléments qu'il convoque dans cette démonstration, il les travaille à sa façon, notamment dans la chronologie, pour montrer que tout ce qui arrive est d'ordre providentiel, même si le baptême de Clovis a bien eu lieu, même si la victoire de Vouillé contre les Visigoths a bien eu lieu, celle de Tolbiac peut-être contre les Alamans, etc. Ces faits ont eu lieu. Mais la façon dont il les combine, dont il les ordonne, et surtout dont il les commente et les interprète, est déjà en soi une œuvre qui n'est pas le simple constat de ce qui s'est passé sur le terrain et qui est à jamais impossible.
Et ce qu'il ressort quand même de la lecture de votre livre, Laurent Theiss, hein, plus particulièrement de Clovis, qui est donc l'un des livres constitutifs de votre recueil « Roi des Francs », le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert Lépieux, que vous publiez dans la collection Bouquin, c'est quand même, enfin, paraît assez extraordinaire. Est-ce qu'on comprend de cette lecture, c'est que de tous les rois germains, Clovis est le seul qui soit païen. Et les autres sont ariens. Et il n'y a de baptême de Clovis que parce qu'il était païen. Et derrière, et les conséquences sont extrêmement importantes parce que, j'essaie de résumer ce que et puis vous me contredisez, le fait qu'il soit païen, qu'il se convertisse, qu'il soit baptisé, c'est l'alliance avec l'Église chrétienne de Gaule. Et c'est cette alliance-là qui va permettre l'unification du royaume des Francs, on ne sait pas dire du royaume de France, du royaume des Francs, sous la personne de Clovis, parce qu'il est soutenu par tous les évêques qui, eux, sont gallo-romains. J'ai trouvé ça extraordinaire de comprendre cela à la lecture de votre livre.
Eh bien, c'est là que je crois au déterminisme en histoire. Je ne crois pas que les choses jaillissent de rien. Je pense qu'il y a des mouvements profonds. Mais il y a aussi la part des circonstances qu'il faut savoir faire parce que les choses auraient pu tourner tout autrement. Et c'est d'ailleurs souvent amusant de faire et intéressant même de faire de l'uchronie. Et là, Clovis, quand je dis Clovis, je ne parle pas d'un individu dont nous pourrions dire qu'il a eu un projet complètement conçu et maîtrisé. Il s'agit d'un groupe autour de lui, il s'agit d'un peuple, mais enfin, qui s'appelle Clovis à nos yeux. Et Clovis a fait le bon choix. L'a-t-il vu venir exactement? Je n'en suis pas sûr. Mais le fait est qu'il l'a fait à la fin du 5e siècle et qu'il est passé du stade païen au stade chrétien sans faire la transition par l'arianisme, alors que le roi des Burgondes, bien plus puissant que lui, le roi comte de Beau, le roi des Visigoths, eux, depuis Alaric, vraisemblablement plus fort que lui, et le roi encore plus fort du nord de l'Italie, Théodoric le Grand, très 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 puissant, et bien le roi des Ostrogoths, tout cela sont passés par la case arienne. Or la case arienne, c'était le mauvais cheval, si je puis dire, c'était le mauvais vecteur, parce que l'arianisme n'avait pas pris, il venait de l'Europe, au fond de l'Europe du sud, du sud-est, hein, et de la Hongrie, de ces pays-là, et il n'a pas pris dans l'Europe occidentale, et notamment ni en Gaule, ni en Italie, ni dans ce qui sera plus tard l'Allemagne, la Germanie. Et donc, seule l'aristocratie et la royauté de ces pays, de ces peuples, étaient ariennes. Et les évêques, à l'intérieur même de ces royaumes, ont fait appel à Clovis, autant que ceux de la Gaule romaine, pour lui confier, au fond, les destinées de leur peuple. Et la vraie puissance à la fin du 5e siècle, ce ne sont pas seulement les rois dont nous parlons et d'autres que nous ne voyons pas, mais qui existent, c'est le réseau épiscopal. Pas encore monastique tout à fait, même si Saint-Martin, Saint-Hilaire de Poitiers et quelques autres sont déjà en place, mais c'est le réseau des évêques qui s'est constitué depuis la Méditerranée jusqu'à la Belgique, jusqu'à l'Europe du Nord, qui ont fait passer alliance et échange de services entre la royauté franque, qui était à prendre au fond, puisqu'elle était païenne, et cette église et ces églises épiscopales. Et
c'est cette alliance qui est extraordinaire à comprendre, je trouve, hein, entre les guerriers francs, qui vont constituer une des l'aristocratie, et l'aristocratie gallo-romaine qui occupe tous les sièges épiscopaux. Les évêques, ce sont des gallo-romains. Et c'est cette alliance-là, entre les guerriers francs, les aristocrates francs, et puis ces évêques, qui va donner ce royaume des Francs. Cette alliance, ça vous l'expliquez parfaitement.
Alors ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui. Il faut savoir que les francs, les guerriers francs, les tribus ou les peuples francs, on les voit apparaître déjà dans le monde romain au milieu du IIIe siècle.
Oui.
C'est-à-dire deux siècles avant l'apparition de Clovis.
Laurent Théis, je vous propose que vous nous expliquiez ça, parce que ça c'est un point très important à comprendre. C'est le début de votre livre sur Clovis, c'est comment les Francs, et plus particulièrement les Francs-Saliens, se sont installés donc dans cette région Nores limitrophe, donc les limites de l'Empire romain au 3e siècle, et quel était leur rôle. C'est fondamental de comprendre ça pour la suite de l'histoire. Je vous propose effectivement que vous nous l'expliquiez.
Très rapide, ce sont des populations qui viennent donc de l'Europe centrale et qui sont poussées par des populations plus orientales qu'eux. Par exemple, les Huns, les Avars ou des Peuplades que nous n'arrivons pas bien à identifier. Et ils sont poussés vers l'Est, vers l'Ouest, venant de la Vistule, dans le nord de l'Europe. D'autres sont poussés aussi, comme les Ostrogoths, les Vandales, etc. Mais ceux-là passent plus au sud. Les Francs s'installent de part et d'autre, entre l'Elbe, si vous voulez, et le Rhin. Et ils arrivent sur la rive droite du Rhin, et c'est là que les généraux romains commencent à les rencontrer, à l'époque de l'empereur Aurélien, donc au milieu du IIIe siècle. Ils les affrontent, mais ce sont des bons guerriers, et aussi ils les recrutent. Et on voit peu à peu une osmose, en tout cas au sommet, se produire entre l'aristocratie guerrière franque et l'aristocratie gallo-romaine, représentée à la fois par ses généraux, mais aussi déjà par les forces épiscopales, à partir du moment où, avec Constantin et Théodose, c'est-à-dire au IVe siècle, l'Empire romain s'imprègne de christianisme jusqu'à en faire, à la fin du IVe siècle, la religion officielle de l'Empire. Donc le christianisme, les évêques, les Romains, les Francs les connaissent, les fréquentent depuis longtemps. Certains chefs francs sont devenus consuls, sont devenus patrices, sont devenus maîtres de la milice, sont devenus de très hauts fonctionnaires, et même certains d'entre eux ont épousé des filles ou des veuves d'empereurs romains. Donc, peu à peu, on a appris à se connaître. Et il faut bien penser que, par exemple, le père de Clovis, qui s'appelle Childéric, sait le latin. Et vraisemblablement son grand-père. Et Clovis aussi le comprend, parce que c'est la langue militaire. Or, Clovis est à la fois un chef de peuple franc, mais c'est aussi un général romain, qui porte un uniforme, si j'ose dire, romain. Et il est à la fois l'administrateur et le général en chef des armées romaines, composées largement de francs, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, dans le nord, dans ce qu'on appelle la Belgique seconde, c'est-à-dire tout ce qui est au nord de la Somme, en gros.
Ça, c'est le père de Clovis.
C'est le père, mais Clovis aussi apparaît comme général romain.
Voilà, ce sont des très hauts. Ils sont généraux romains.
Oui.
Et mais avec des contingents francs.
Voilà.
Chargés de défendre les frontières donc, du nord-est.
Contre plus ce barbare qu'eux-mêmes. Ils défendent contre les. Ils participent à la bataille contre Attila, celle des champs cataloniques, qui est bien connue.
Je vous cite parce que c'est important de comprendre cela et vous le rendez très, très clair. La vigoureuse agression des Vandales, des Alains et des Suèves en 406 et 409, à laquelle les Francs établis sur la moyenne vallée du Rhin résistèrent avec acharnement. Ils font leur réapparition sous le gouvernement d'Aétius. Aétius, c'est le maître de la milice et patrice, les titres les plus élevés de la hiérarchie romaine. Et ils vont se battre aux côtés d'Aétius, en effet, contre Attila.
Exactement.
En 451, donc sur les champs cataloniques.
Les champs cataloniques, pas de Châlons, près de Châlons-sur-Marne.
Entre
Châlons en Champagne, pardon, aujourd'hui.
Et Châlons. On a trouvé l'endroit exact de la bataille.
Oui, on localise à peu près, mais naturellement, on a gratté le sol. Quand on gratte le sol de ces régions, on trouve toujours des choses. Hein. Des monnaies, des bouts de ferraille, des épées. Mais dire que le champ de bataille est connu, non.
Alors,
il ne faut pas s'imaginer non plus que c'est une bataille, que ce soit Verdun. Hein. C'est quelques centaines d'hommes de part et d'autre. Mais qui a été grandi dans la légende parce que là, ça a été l'avancée occidentale maximale d'Attila et des Huns. Qui tout de même n'étaient pas des gens, n'étaient pas n'importe qui.
Et vous écrivez d'ailleurs que Aétius et Attila étaient amis.
Bien parce que Aétius, jeune homme, avait été. Il faut bien voir que ceux qu'on appelle les bavards.
Aétius, donc le général romain qui commande cette région.
Voilà, qui commande la dernière armée romaine qui soit reconnue par Rome directement. Et il faut bien voir que ceux qu'on appelle des barbares, et les Huns sont barbares parmi les barbares, en tout cas vu de Rome, ces gens-là sont fascinés par Rome. Et donc quand ils peuvent approcher de cette civilisation, quand ils peuvent nouer des liens par le commerce et par des formes d'amitié qui nous échappent un peu, ils le font. Et donc Aétius a été placé à la cour d'Attila pour, au fond, échanger, un peu peut-être comme otage, pour faire la paix avec ce grand chef Hun, mais aussi pour les instruire dans ce qu'était la romanité. Et jeunes gens, ils se sont connus. Mais c'est exactement la même chose pour Vercingétorix, qui a été aussi proche de César avant d'être son adversaire.
Et ça, on le sait par quelle source que Aétius et Attila se connaissaient ?
Alors, on le sait par des écrivains un peu plus tardistes, des Byzantins, qui écrivent vers le 8e et 9e siècle. Et qui sont peut-être quelquefois plus fiables que les historiens comme Grégoire de Tours, parce qu'eux n'ont pas d'idées derrière la tête. Ils répètent ce qu'ils ont appris, et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas exact, d'autant que, comment dirais-je, on a tout de même des traces dans les annales romaines de ces événements.
Alors vous écrivez que Aetius meurt assassiné
oui.
en 453 de la main d'un empereur romain. C'est un geste qui, rétrospectivement, fait figure de suicide de l'Empire.
Tout est rétrospectif dans cette affaire, parce qu'on ne sait jamais quand l'Empire romain va finir. Bon, on prétend qu'il a fini en 476. Bon, là, c'est une anticipation. Mais en effet, c'est un empereur romain qui détruit un concurrent. Mais en détruisant un concurrent, évidemment, il se tire, si j'ose dire, et avec beaucoup d'anticipation, une balle dans le pied.
Par qui est-il remplacé ? C'est la suite de l'histoire, c'est le début, en quelque sorte, de l'autonomie de
la Gaule. Il y a des armées romaines qui se reconstituent sur des descendants de Aetius, Egidius son fils, puis Siagrius, qui est un autre. Chacun garde son contingent romain, mais les deux derniers que je viens de citer n'ont plus de rapport avec Rome. Ils sont à la tête de quelques légions romaines, peuplées d'ailleurs très largement de Francs et d'autres, et ils agissent pour leur propre compte. Et agissant pour leur propre compte, ben ils sont rattrapés et dépassés par leurs amis qui deviennent leur patron, c'est-à-dire les Francs.
Quel est le paysage de la Gaule à ce moment-là ? On peut toujours parler d'une Gaule gallo-romaine avec une civilisation gallo-romaine malgré le fait qu'elle prenne son autonomie de Rome avec le personnage de Gidius.
La culture est quelque chose qui survit quand tout a disparu. Et quand le sommet de la romanité a été décapité ou, transposé, déplacé, comme vous voudrez, mais dans la population, et même aussi dans les élites jusqu'à un certain niveau, tout continue comme devant. Les paysans continuent de cultiver, les laboureurs de labourer, les artisans de faire de la poterie, qui continuent à s'exporter très bien, on frappe des monnaies, on écrit des vers, on écrit des livres d'histoire, dont la plupart sont perdus, sauf Grégoire de Tours, mais c'est plus tardif, et on vit ensemble. Simplement, l'univers se rétracte. On voit très bien que Rome devient plutôt un horizon inatteignable, devient une référence qui n'est plus pratiquée physiquement. On ne va plus guère à Rome à partir du 5e siècle. D'abord, c'est dangereux, et puis on n'a plus rien à y faire. La population se vide, les Alains ont pris le pouvoir, l'empereur est peu à peu confiné dans son palais, et puis il est réexpédié à Constantinople. Et donc, les choses se rétractent. Mais la langue, mais l'écriture, mais les livres, et puis la religion, puisque le christianisme et la romanité font corps depuis deux siècles. C'est pour ça qu'on est facilement d'abord un haut magistrat, un grand propriétaire terrien, et qu'on devient évêque au milieu ou à la fin de sa vie. La famille de Grégoire de Tours est peuplée de grands aristocrates qui possèdent des milliers d'hectares en Auvergne, et dont un membre sur deux est évêque ou abbé.
Lorsque Clovis rentre en quelque sorte en scène, la Gaule est-elle dirigée par ce Romain Egidius qui a pris son autonomie de Rome avec tous des réseaux d'évêques, de patriciens qui maintiennent à la fois par la chrétienté unificatrice et le mode de vie gallo-romain qui maintiennent l'unité de la Gaule?
L'unité de la Gaule n'a jamais existé, puisque vous savez qu'il y avait 5 ou 6 provinces romaines, la Gaule chevelue, les deux Gaules belgiques, l'Aquitaine, etc. Et donc, il n'y a pas, ou il n'y a plus, de direction, et surtout de système pyramidal. Mais il y a un encadrement. Les cadres de la société subsistent, continuent. Ce sont les grands propriétaires. Mais ce sont aussi beaucoup de propriétaires d'agriculteurs indépendants. Ce sont des artisans, ce sont des commerçants. Les écoles fonctionnent encore, mais c'est là que ça commence à disparaître le plus vite. Il n'y a plus guère d'écoles publiques à l'époque où Clovis apparaît, c'est-à-dire vers 481. Et s'il y en a, c'est dans le sud de la Gaule, beaucoup plus. Mais il y a encore des armées, il y a encore des guerriers qui souvent manœuvrent, se vendent au plus offrant. Il y a, au fond, de la monnaie, tout ce qui permet de fonctionner. Et puis l'Église, la religion, tous les Gaulois, les Gallo-Romains, Gallo-Romains n'est pas une appellation commode, tous les gens, c'est chose de dire, tous les vrais gens ne sont pas ralliés à un christianisme de Nicée pur et dur avec sa complexité théologique. Mais ils croient plutôt au Dieu des Francs et des Romains, au Christ roi, plutôt qu'à leur divinité. Et en même temps, il y a des coutumes qui se maintiennent, des rites qui se perpétuent, et d'ailleurs dont les églises elles-mêmes s'emparent en les transmutant. La fête de Noël n'est pas, sûrement pas une invention chrétienne.
Et vous expliquez d'ailleurs que la religion est surtout implantée dans les villes.
La religion est implantée dans les villes parce que l'évêque à ceci de particulier qu'il est à demeure. Ce n'est pas les rois eux-mêmes. Les rois francs sont itinérants. La capitale de Clovis, d'où il démarre, c'est Tournai. Mais enfin, Tournai, qu'est-ce que c'est rien du tout. Il ne cesse de déplacer. Il va à Reims, il va à Soissons, il va à Amiens, etc. Tandis que l'évêque, il est l'évêque d'une cité et d'une seule. Et il prend la suite du comte romain, c'est-à-dire celui qui détenait l'autorité dans les cités, les civitates des 2e et 3e siècles. Et au fond, il y a une sorte de substitution, d'abord de cohabitation, et ensuite de substitution, par le fait d'ailleurs que le comte devient souvent aussi l'évêque. C'est le cas à Strasbourg, par exemple, où Arbogast, qui était le comte local, est devenu aussi l'évêque de Strasbourg, c'est plus commode. Et donc, l'évêque, il est dans les villes, et la prédication démarre des villes. Elle démarre d'autant mieux des villes qu'elle démarre du sud de la Gaule, où la civilisation romaine, qui est une civilisation urbaine, est bien implantée. Donc on est d'abord évêque d'Arles, évêque de Vienne, évêque de Toulouse, évêque de Marseille, là où les cités se sont maintenues. Et quand on va de plus en plus loin vers le nord, c'est plus compliqué parce que les cités sont minuscules. Paris, c'est 10 fois moins que Marseille. Reims, on en fait le tour à pied en 25 minutes. Donc le phénomène urbain, au fond, bénéficie du réseau épiscopal, puisque, je le répète, l'évêque est l'évêque de sa cité. Et c'est un évêque stable. Il est d'autant plus stable que normalement, il n'a pas d'enfants. Il a des enfants, mais pas des enfants pour lui succéder. Donc la succession, elle se fait par la transmission de l'autorité à l'intérieur d'une cité et non pas par des jeux de propriété.
En 481, comment se situent les différentes tribus germaniques en Gaule ?
Écoutez, je ne peux pas vous le dire.
Qui sont-elles ?
Si je ne peux pas vous le dire, pas grand monde ne pourra vous le dire. Mais a posteriori, on distingue des Francs qui sont du côté de Cambrai. Il y a un petit royaume. On le sait parce que Clovis a fait disparaître, d'une façon assez rapide, les royautés franques concurrentes. On sait qu'il y en avait du côté de Cologne. C'était sans doute un des royaumes les plus puissants. Ensuite, on sait qu'il y en avait à Cambrai. On en voit une autre du côté du Mans. Et puis celle des Saliens, qui est implantée d'abord à Tournai, puisque c'est à Tournai que le père de Clovis, Childéric, a été enterré et qu'on a retrouvé sa tombe intacte en 1631.
Comment se révèle-t-il à la vie publique ? Alors donc, il est à Cambrai, il règne, il succède à son père Childéric.
Oui, mais son père Childéric, il était déjà général romain, et quand Clovis advient, on pense que c'est en 481, parce que les points de repère de Grégoire de Tours sont ceux-là, Rémy lui écrit presque aussitôt: bonne nouvelle, nous apprenons que tu succèdes à ton père Childéric dans l'administration, c'est le mot administration, dans l'administration de la Belgique seconde. Et donc, moi, Rémy, qui suis évêque de Reims, tu deviens mon patron pour l'administration. Et donc, nous allons collaborer. Tu es encore païen, bon, mais ça n'empêche rien. Nous allons commencer une collaboration. Et puis, cette collaboration, qui commence en 481, en principe, se termine en 480, enfin, elle continue, mais à un point d'orgue, 496, si c'est bien la date exacte, où là, le baptême vient redoubler cette alliance, cette collaboration, au sens noble, entre l'évêque de Reims, qui était là depuis très longtemps, parce qu'il était évêque à 22 ans et qu'il a vécu jusqu'à 85, et le jeune roi des Francs, qui comprend que pour pouvoir aller plus loin, il faut qu'il se rallie ses forces vives. Et pour se rallier ses forces vives, pourquoi ne pas se faire baptiser ? Parce qu'au fond, ça sera une force de plus. Et d'ailleurs, les rois ariens, qui sont ses concurrents, sont quand même baptisés, et ils voient que c'est quand même assez avantageux d'être chrétien dans le monde gallo-romain tel qu'il est. Donc voilà son itinéraire dans les 15 années qui précèdent son baptême.
Mais dans ces 15 années, il va se passer un nombre d'événements importants qui vont permettre à Clovis d'arriver au pouvoir suprême, en quelque sorte, de contrôler toute la Gaule, qui sera transformée donc en royaume franc sous sa conduite, sous sa direction. Quels sont ces événements ?
Alors ces événements, ils ont été, si j'ose dire, montés en épingle par Grégoire de Tours. Pourquoi Grégoire de Tours le fait-il ? C'est pour montrer qu'il y a des étapes, j'allais dire, sur un chemin, de même qu'il y a sur les chemins de croix, il y a des étapes. Le chemin, l'ascension de Clovis, c'est marqué par des étapes. Et dans le calendrier impérial, il y a ce qu'on appelle des quinquennalia, ça veut dire des cérémonies ou des points d'orgue tous les 5 ans. Le règne de Constantin, par exemple, qui est l'horizon indépassable de la gallo-romanité et aussi de la population franque, le règne et la personne de Constantin, il lui arrive quelque chose tous les 5 ans. Et donc, Grégoire de Tours s'arrange pour qu'il arrive quelque chose tous les 5 ans à Clovis. C'est pas sûr du tout que ça soit pas dit tous les 5 ans. Mais en 481, il apparaît. En 486, première victoire contre Syagrius. 400, etc. 481, bon, j'enchaîne. Et donc, il arrive des événements qui sont, d'une part, cette convergence vers l'épiscopat gallo-romain, et d'autre part, la guerre. Clovis est un guerrier. Et ce sont donc, peu à peu, des royautés qu'il soumet, avec plus ou moins de bonheur, mais Grégoire de Tours, quelquefois, euphémise. Comment dirais-je ? Colorie aux bonnes couleurs. C'est que, par exemple, la conquête de la Burgondie, de la Bourgogne d'aujourd'hui, a été beaucoup plus difficile qu'on ne le dit. Mais sur ce qu'on appelle les Alamans, qui sont des rois, des peuplades encore païennes, donc Clovis mène le bon combat, contre les Visigoths, qui sont des Ariens, bon combat aussi. Bien, ce sont des victoires successives qui font que depuis le nord vers le sud-ouest, puis le sud-est, peu à peu, Clovis étend son autorité et liquide, il faut bien le dire, les concurrents qui sont à l'intérieur des provinces romaines traditionnelles. Il ne touche pas évidemment à l'Italie. Ce sont ses petits-fils qui entreront un peu en Italie. Même la Provence lui reste inaccessible, ces régions de très forte romanité que l'empereur de Constantinople tient encore dans sa main, et avec le soutien des Ostrogoths, de Théodoric, dont la capitale est à Pavie ou à Milan. Et donc, sur la rive gauche, de ce qui deviendra, non pas l'Hexagone, mais enfin quelque chose d'approchant, sur la rive gauche de la Meuse, sur la rive gauche du Rhin, sur la rive droite du Rhône, dans la vallée de la Garonne, et jusqu'à l'Atlantique et aux Pyrénées, et bien, peu à peu, il construit son autorité. Ne croyons pas que son autorité s'exerce comme celle de Louis XIV ou celle de Napoléon. C'est simplement qu'il est le roi reconnu. Il est celui pour lequel on prie, il est celui pour lequel les évêques font des cérémonies, il est celui auquel on se réfère sans, pour les 9/10 de la population, l'avoir jamais vu, évidemment. Et pour certains, à mon avis, qui ne savent même pas qu'il existe. Mais il est le roi des Francs, et dès lors qu'il est le roi baptisé dans la vraie religion, dans la religion du Concile de Nicée, dans celui de la catholicité romaine, il est tout naturellement le guide, celui qui conduit implicitement ou explicitement ses populations vers la Jérusalem céleste, mais à grands coups d'épée.
Alors Laurent Taïs, je vous propose que nous fassions une petite pause et un message important de la radio, ça dure quelques secondes, et nous reprenons l'émission juste après.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous poursuivions cette émission en compagnie de Laurent Taïs à l'occasion de la publication aux éditions Bouquin, Roi des Francs, le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux, et nous consacrons cette émission plus particulièrement à Clovis, dont Laurent Taïs nous a expliqué que Clovis succède à son père Childéric.
Enfin, bon.
Ce sont des rois, et ce sont des Francs saliens qui se trouvent donc dans la région de Tournai. Et d'ailleurs, on a retrouvé relativement récemment...
au milieu du XVIIe siècle.
La tombe de son père, Childéric, et que à partir donc de cette position, et bien par étapes, en s'alliant notamment avec les évêques de Gaule et notamment l'évêque de Reims, et bien c'est ainsi que Clovis va arriver à contrôler tout ce territoire qui est devenu par la suite la France. Alors peut-on toujours d'ailleurs l'appeler la Gaule? Comment l'appeler? Ce n'est pas encore la France, ce n'est plus la Gaule.
Eh bien, vous avez raison de soulever cette question parce que les historiens d'aujourd'hui ont du mal à faire le départ. Tant que l'Empire romain reste constitué vigoureusement, on parle des Gaules, Galliers. Hein, Gallia, Gallier. Les Gaules. Il y a plusieurs Gaules. On parle des Gaules. Toujours les Gaules au pluriel.
Donc il va devenir roi des Gaules,
en quelque sorte. Non, il est roi des... Il arrive. Le roi des Francs arrive dans les Gaules. Et on ne parle pas... On dit le roi Clovis. On ne parle pas de roi franc. On parle de roi des Francs. Et on parle de roi tout court. Généralement, Clovis n'est pas mentionné comme roi des Francs ou comme roi de France. Encore moins, évidemment. Mais il est le roi. Il est le roi des Francs. Et peu à peu, le terme de Gaule... Vous ne direz pas tombe en désuétude, mais passe du côté savant. Ceux qui écrivent Gallia, Gallier, veulent montrer qu'ils ont lu Jules César, qu'ils ont lu Tacite, qu'ils ont lu, de même qu'on commence à parler de Germanie. Germania, qui est un terme aussi relativement savant. Mais d'un autre côté, on parle de population. Donc les Francs, les Saliens, les Ostrogoths, les Visigoths, etc. Et le terme de Francie, Francia, apparaît relativement tard pour désigner des territoires ou des peuples un peu indéfinis. Il faudra attendre, en réalité, les premiers Capétiens ou les derniers Carolingiens pour que Francia, Francie, désigne tout ce qui est, en gros, entre la Loire et le Rhin, entre la Loire et la Meuse. Cette Francie occidentale qui est le noyau de la France future. Et la Francia devient la France, en réalité, au tournant, au milieu du XIIe siècle, à l'époque de Louis VI le Gros. Donc, beaucoup, beaucoup plus tardivement. Mais il se trouve, c'est encore un hasard, comme celui que nous évoquions tout à l'heure, que, comme c'est Clovis qui a gagné, comme c'est le roi des Francs, de Francs, Francie, France. Mais si ça avait été un autre roi, le roi de Cambrai ou le roi de Cologne, ça se serait passé autrement et on n'aurait jamais parlé de Francia.
Ceci dit, le roi de Cambrai et le roi de Cologne, ce sont aussi des Francs.
Ce sont aussi des Francs. Mais comme Clovis les a exterminés, eh bien, c'est le roi de Tournai, c'est le roi des Francs, des Francs saliens, qui a pris, au fond, l'histoire de cette région à son compte.
La première étape de cette expansion, c'est donc qu'il combat celui qui est roi des Romains. Siagrius, on va reparler parce que j'aimerais vous poser un certain nombre de questions. Et puis après, Clovis va vaincre les autres.
Il y a quelques étapes qu'on peut récapituler facilement. C'est la prise de pouvoir, d'abord, de Clovis à l'intérieur des armées romaines. Donc défaite de Siagrius à Soissons. Voilà, on commence par là, en 485 ou 6. Ensuite, deuxième étape, victoire sur les Alamans. La victoire sur les Alamans est très difficile, à ce qui s'appellera plus tard Tolbiac, on n'en parle pas à l'époque. Mmh. Et là, Dieu de Clotilde, puisque Clotilde, son épouse, est une bourguignonne, une burgonde, qui elle, a été élevée dans la catholicité romaine, Dieu de Clotilde, donne-moi la
victoire.
Ça va très mal. Si tu me donnes la victoire, je croirai en toi. Il répète exactement ce qu'avait fait en 313 Constantin au Pomilvius. Bon, ça marche. Donc, étape du baptême, 496. Ensuite, guerre en Burgondie très confuse dans les années 500. Puis, dernier grand moment, 507, dans la chronologie de Grégoire de Tours, qui n'est peut-être pas du tout la vraie. 507, grande victoire contre les Visigoths d'Alaric, et à Vouillé, c'est-à-dire près de Poitiers. Et c'est là que la conquête de Clovis se termine, puisque l'empire, le royaume des Visigoths, allait jusqu'à Barcelone d'un côté.
C'est l'Aquitaine, en quelque sorte.
C'était l'Aquitaine, mais prolongée par la Catalogne.
Oui.
Voilà, donc quatre grandes étapes. Avec, au milieu, au sommet, on monte la colline jusqu'au baptême, et puis ensuite on la redescend et on va vers la mer, jusqu'à la mort du roi, qui est mort à Paris.
Il devient, en quelque sorte, dans un premier temps, roi des Romains, en prenant la place de Siagrius. À ce moment-là, il a déjà fait la conquête des autres royaumes francs, Cambrai, Cologne, ou c'est après qu'il va se retourner contre eux.
Selon Grégoire de Tours, c'est plus tard. C'est après le baptême. C'est après le baptême, parce qu'ils se sont... Les rois dont nous parlons, nous ne savons pas s'ils sont chrétiens ou non. C'est douteux. Donc les rois de Cologne, de Cambrai ou du Mans, il est légitime, au fond, à les détruire, parce que du coup, il fait œuvre contre le paganisme. Il s'autorise. Et c'est pour ça que le chroniqueur, le Saint-Évêque, Grégoire le Grand, Grégoire de Tours, le raconte sans plaisir, parce que tout de même, c'est pas très brillant, surtout qu'il le fait avec des Russes assez perverses. Mais d'un autre côté, il va dans la bonne direction, puisqu'il élimine des concurrents païens. Et donc, c'est après son baptême, c'est entre le baptême et la victoire sur les Visigoths qu'il se serait livré à cet exercice de destruction des rivaux, comme un lion qui arrive, si vous voulez, dans une nouvelle famille de lions et qui dévore les lionceaux pour n'avoir que des vrais descendants avec les lions.
Alors,
c'est chose à comparaison.
On va revenir sur ce cheminement et du rôle plus particulièrement de l'évêque de Reims, avec le baptême, qui est un peu le sacre aussi. Hein. Ce baptême, c'est un peu le sacre de Clovis.
Oui, voilà. Hein, là, vous faites un bond de 5 siècles.
Oui, mais ça fait justement, vous allez nous expliquer comment on passe de l'un à l'autre, hein, puisque dans notre esprit, le baptême de Clovis correspond au sacre, puisque tous les sacres des rois, à part Saint-Denis et puis Chartres, vont se passer à Reims. Comment va-t-on passer? Va-t-on passer du baptême de Clovis, justement, à ce sacre des rois de France, à Reims? Par quel cheminement? Vous avez parfaitement expliqué l'ascension de Clovis à travers ses victoires militaires. D'abord contre le roi des Romains, celui dont vous dites, ou je ne sais plus quel est, historien français, a dit... c'est un barbare romanisé qui a vaincu un romain barbarisé. Donc Clovis a vaincu Syagrius, le fils d'Egius. J'aimerais, si vous le voulez bien, Laurent Teich, puis après nous lirons les messages, il y a de nombreux messages d'auditeurs, nous allons bien sûr vous les proposer, que vous nous expliquiez comment, alors, autant que possible, parce que les sources sont tellement restreintes, comment ça peut se passer. Syagrius est le roi des Romains, c'est en quelque sorte, même s'il a coupé les liens avec l'Empire, c'est le représentant de l'Empire romain, dans ces Gaules. Clovis est comme son père, à la fois roi des Françaliens et général des armées romaines, mais il est général parmi d'autres généraux. Comment Clovis, et pourquoi Clovis décide-t-il de combattre Égidius? C'est pour prendre sa place, pour devenir roi des Romains à sa place? Comment ça s'est passé? Et aussi sur le plan militaire, est-ce que Clovis a rassemblé ses Françaliens, ses guerriers Françaliens, et puis il y a eu une bataille entre les troupes romano-barbares de Syagrius? Comment ça s'est produit?
Alors, c'est tout à fait impossible à décrire. Non, on peut. Je veux pas m'avouer battu. On peut reconstituer, mais on voit bien l'osmose des populations et d'abord l'osmose des élites. Moi, je ne sais pas, par exemple, si Agrius n'était pas marié avec une Franque. Mmh. On ne sait pas, par exemple, dans la tombe de Childéric, qu'on a trouvé à Tournai, on a trouvé des épées franques fabriquées dans des ateliers romains. C'est pour vous dire que cette distinction que nous faisons maintenant, ce sont des références. Syagrius est inscrit dans un lignage. On peut remonter à ses ancêtres qui sont romains, je ne sais pas depuis toujours, mais enfin qui sont légitimés par la puissance impériale romaine et peut-être même par la République plus en amont. Et alors, il représente, comme on dirait, ses valeurs, ses principes. Donc, son armée est organisée en légion. C'est le système romain qu'il utilise. Et on n'a pas de légion franque. C'est le tumulte franc. C'est les gens, allez-y joyeusement, la cavalerie qui fonce dans le tas. Et voilà. Donc, ce sont deux modes de militaires qui sont différents. Or, on peut supposer, et même s'assurer, que Clovis a vu... Il a entendu parler de l'efficacité des armées romaines constituées comme telles, par exemple, au champ catalonique, contre la troupe indisciplinée ou réputée telle d'Attila. Eh bien, les légions romaines, même si elles étaient renforcées de contingents barbares, ont manœuvré comme manœuvrait Jules César devant Alésia. Et du même coup, il a été chercher, enfin Clovis, au fond, voilà comment on pourrait dire, il est allé chercher de meilleurs, ce qu'il y avait de meilleur chez les autres. Ce qu'il y avait de meilleur, c'était d'un côté la religion chrétienne sous sa forme catholique, et dans le monde laïque, si je puis dire, dans la société civile, c'est l'organisation romaine, d'un point de vue militaire, mais aussi d'un point de vue fiscal. Le système fiscal, par exemple, est resté intact sous Clovis et ses successeurs, tels que les Romains l'avaient. Il y avait encore des cadastres, il y avait encore des percepteurs, ça marchait.
Mais Laurent, il y a quand même eu un combat, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a ce fameux épisode du vase de Soissons. Le vase de Soissons, ça date de la victoire. Alors, est-ce que ça a réellement existé? Et ça date de la victoire de Clovis sur Syagrius. Oui. Donc, il y a eu bataille, s'il y a eu ce fameux vase.
Il y a eu bataille où il y a eu des bandades. Mais naturellement, il fallait bien que les forces du bien... Enfin, puisque Clovis allait devenir bientôt, Grégoire de Tours le savait, puisqu'il écrit 90 ans après, comme le roi des Francs allait devenir chrétien, eh bien, il était tout à fait normal qu'il l'emportât sur des païens, si raffinés fussent-ils. Et donc, comment s'est produite la bataille? On a dû un peu se rentrer dedans, et puis certains ont dû se rallier, d'autres s'enfuir. Bon, il a capturé Syagrius, et c'est vrai qu'il l'a fait oxyre. dit Grégoire de Tours, mais on n'en est pas sûr.
C'est Grégoire de Tours qui dit qu'il l'a fait assassiner.
Oui, on n'en est pas sûr, en réalité, parce qu'on a l'impression de le voir réapparaître du côté des Visigoths. Enfin, peu importe, en tout cas, il l'a défait. Et en effet, dans ces horribles, dans tout le fourniment qu'il a capturé, dans le butin qu'il a fait, parce que la guerre, ça sert aussi à ça, à avoir un trésor pour payer tout le monde, eh bien, il y avait cette histoire du vase de poisson qui n'a ni queue ni tête, et qui a été vraisemblablement composé d'éléments disparates que Grégoire de Tours a réuni pour une fable édificatrice pour montrer l'autorité qu'avait acquise Clovis sur ses populations.
Donc il y a quand même beaucoup d'obscurité dans cette histoire, Laurent.
Il y a des raies de lumière, en effet, dans l'obscurité. Alors c'est à la fois frustrant, mais c'est aussi excitant parce qu'on essaye de recréer ce qui a pu se passer, et aussi, comme je vous le disais en commençant, parce qu'à partir de là, eh bien, c'est parce que c'est obscur qu'on peut faire sortir Clovis d'une réalité qu'on ne connaît pas pour l'installer dans d'autres réalités, dans d'autres contextes, dans d'autres époques, dans d'autres circonstances où il peut servir. Clovis a au moins autant servi contre les Anglais au XIVe siècle que contre les Visigoths ou contre les Alamans.
Alors, nous avons de nombreux messages d'auditeurs, Laurent Teich, je vous les soumets. Quelle différence, nous demande une auditrice, y a-t-il entre le christianisme nicéen et le christianisme arien?
Alors, pour aller vite, c'est un de ces problèmes dont le christianisme n'a jamais réussi à se défaire. C'est une des grosses faiblesses, à mon avis, de la religion chrétienne, c'est la Trinité. Pour les chrétiens nicéens, Concile de Nicée 325, eh bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est arrivé un peu par raccroc, sont mis sur le pied d'égalité. C'est-à-dire que c'est une divinité unique qui se manifeste en trois personnes. Tandis que pour les Ariens, eh bien, Dieu, ils sont plus monothéistes. C'est-à-dire que le Christ est soumis ou dépend du Père, et le Saint-Esprit est à la remorque. C'est-à-dire que c'est Dieu, d'abord, le Christ, qui est son témoin, qui est son fils, qui est son agent, si je puis dire, qui est sa révélation sur Terre, mais qui n'est pas au même niveau. C'est-à-dire que Dieu a existé, enfin plutôt Jésus n'existait pas au début des temps. Vous voyez ? Donc Jésus n'est pas consubstantiel au Père, il est le fils du Père, et le fils est toujours inférieur au Père, en principe.
Je poursuis une auditrice qui nous dit « Pour montrer que tous ces chefs barbares étaient liés, je crois que la sœur de Clovis, Odofled, avait épousé Théodoric, celui dont on voit le tombeau à Ravenne et qui était arien. Quant aux fils de Clotilde, ils se sont déchirés sans pitié comme les Atrides. Le christianisme n'apaisait pas les mœurs visiblement. »
Alors, il y a plusieurs éléments. D'ailleurs, je complimente cette auditrice qui est très bien renseignée. En effet, Clovis avait deux sœurs, Odofled et Albofled, des noms invérifiables. Mais l'une, quand Clovis a été baptisé en 496 par Rémy, à Reims certainement, eh bien, une de ses sœurs a reçu une confirmation dans la religion catholique, parce qu'elle avait déjà été baptisée arienne, tandis que l'autre est passée du paganisme, a reçu un baptême plein et entier, parce qu'elle est passée du paganisme au christianisme nicéen. Et en effet, une des sœurs de Clovis a noué alliance, enfin, les Francs s'alliant, noué alliance avec les Ostrogoths de Théodoric, en épousant ce grand roi Théodoric, ce qui était un mariage inégal, puisque la sœur du petit roi des Francs, à l'époque, est moins cotée, si vous voulez, moins bien placée dans la hiérarchie des rois que Théodoric le Grand, qui est la grande puissance de la fin du 5e siècle, qui a recueilli, qui gère en Italie, avec l'autorisation de Byzance, la romanité telle que s'est exilée à Constantinople. Donc le plus romain du monde, c'est Théodoric le Grand, qui est le fondé de pouvoir de l'empereur de Byzance, successeur direct de Constantin.
Un auditeur, avez-vous une explication pour l'abandon par les Francs de leur langue germanique ?
Alors, c'est allé vite. Je ne crois pas du tout que les Francs aient abandonné leur langue germanique. Je pense qu'au niveau des élites qui s'entremêlent très tôt, on voit très bien, par exemple, qu'à partir du VIe siècle, des Francs prennent des noms latins et des Romains prennent des noms francs. Parce que, d'un côté, il y a le prestige de la latinité qui est un prestige culturel, et de l'autre, il y a le prestige franc qui est un prestige politique et idéologique. Et donc, ça s'entremêle, ça s'appelle la fusion. Mais la langue germanique, dont nous ne pouvons absolument rien dire pour cette période. Je ne sais pas dans quelle langue s'exprime Clovis quand il parle à ses hommes. Je sais qu'il comprend le latin. Il le comprend forcément parce que la langue latine est la langue du commandement militaire. et même à Byzance, on ne parle que grec, eh bien jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans, eh bien on parlait latin, même au grec, parce que c'est la langue du commandement militaire, celle de César. Et donc, Clovis entend le latin, et certainement il le parle. Je ne pense pas qu'il le lise, je ne pense pas qu'il soit alphabétisé, mais je ne suis qu'incapable de le dire. Donc la langue germanique, elle n'a pas donné lieu à des expressions littéraires, parce que le latin, qui est la langue à la fois de Virgile et de César, mais aussi la langue des évangiles, est donc insurpassable d'un point de vue de la pratique, d'abord, parce que tout le monde connut celle latin, en gros, et d'autre part, elle a un prestige idéologique qui est insurpassable, et en plus, c'est une langue très élaborée, c'est la langue de l'écriture, des écritures. Et donc, mais le parler germanique, qui est peut-être d'ailleurs réparti en différents dialectes, sera parlé et réapparaîtra sous une forme que nous ne pourrons pas dire si elle est très proche de l'origine, sous Charlemagne. C'est Charlemagne qui commence, tout en latinisant, en rénovant le latin, comprend que s'il veut régner, il a aussi besoin de régner par la langue, et il demande qu'on traduise les sermons en germanique, qu'il y ait une liturgie qui soit accessible dans la langue qu'on appelle francique, d'ailleurs, et plus germanique à l'époque. Et donc il y a un retour à la langue germanique, mais elle a continué à courir très certainement. On voit simplement dans certains textes latins des mots, que le latin, des réalités, que le latin ne peut pas exprimer. Alors là, on colle, si vous voulez, un mot germanique qui n'existe pas en latin, parce que sinon, on n'arrive pas à se faire comprendre.
Et puis, nous avons cette question aussi sur l'œuvre de Grégoire de Tours. Est-ce que ce chroniqueur aime mêler le merveilleux au récit, ou bien est-il déjà un historien moderne avant l'heure dans sa méthode ? Et cette auditrice aussi nous dit qu'elle croit savoir que la Gaule est restée catholique parce qu'elle avait accueilli quantité d'évêques d'Afrique du Nord bannis par les Vandales ariens. Confirmez-vous ce fait ?
Alors sur la quantité, non. Je ne le confirme pas parce que la plupart sont allés en Italie et que ceux qui sont allés, moi je ne serais pas en mesure, mais l'auditrice est peut-être plus, sans doute, plus savante que moi, je ne serais incapable de citer des évêques de l'époque mérovingienne qui soient venus d'Afrique. Parce qu'il y a un décalage chronologique aussi. Les Vandales, c'est tout à fait le début du 5e siècle. Là, la période dont nous parlons, c'est 3 à 4 générations plus tard. Mais s'il y a des cas, il faut que je me renseigne davantage. Peut-être être auditrice, peut-être dans les minutes qui viennent, nous citer des noms. Je ne crois pas.
Alors Laurent Taïs, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous avons le plaisir de vous recevoir pour ce livre sur Clovis, qui est intégré à votre recueil sur les rois des Francs, le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux, donc ces rois francs, que vous publiez dans la collection bouquins. Vous nous avez expliqué l'ascension de Clovis à la tête donc du royaume des Francs, après avoir vaincu tout d'abord Syagrius, le roi des Romains, après avoir vaincu les Alamans, les Visigoths, les derniers, hein, la bataille de Vouillers, ce qui ouvre, permet d'intégrer tout ce qui correspond à peu près à l'Aquitaine au royaume des Francs. Et puis, parallèlement aussi, après avoir éliminé les autres rois des Francs, Cambrai, Cologne, donc pour donc créer et être à la tête de ce royaume des Francs. Vous avez souligné aussi, outre les conquêtes militaires, eh bien, l'importance des évêques dans cette ascension, dans ce contrôle progressif des Gaules, et notamment le rôle très important de l'évêque de Reims. On va y venir à Reims, bien entendu, parce que Reims, c'est le lieu sacré des rois de France, c'était le lieu du baptême. Pourquoi s'est-il fait baptiser, d'ailleurs, à Reims ? Vous écrivez que Clovis a été très impressionné par la halte qu'il avait faite auprès du tombeau de Saint-Martin de Tours, ce qui l'a confirmé dans son désir d'être baptisé. Mais pourquoi Reims ? Avant d'en arriver à cela, et aussi comment passe-t-on de Reims, lieu du baptême, à Reims, définitivement lieu du sacre à travers l'histoire. J'aimerais que vous évoquiez le rôle de Clotilde à la fois dans cette conquête du pouvoir et dans cette conversion. Quel est le rôle exact de Clotilde ?
Alors le rôle de Clotilde a été exalté en particulier par Grégoire de Tours parce qu'elle a fini ses jours vers 530-535 dans l'abbaye Saint-Martin, proche de l'abbaye de Saint-Martin-de-Tours. Donc, c'est elle qui racontait, au fond, c'était la survivante de cette grande épopée, elle a raconté au prédécesseur de Grégoire de Tours, et peut-être au jeune Grégoire, prêtre à Tours, ce qui s'était passé. Mais, comment dirais-je ? D'abord, dans les épopées réussies, la présence d'une femme est nécessaire. On ne conçoit pas les évangiles sans la présence de Marie. On ne conçoit pas l'ascension de Constantin sans sa mère Hélène. Et dans beaucoup de cas, donc, cette présence féminine est nécessaire, et d'ailleurs réelle, souvent, pour donner, au fond, pour rassembler le genre humain et que les deux sexes, si je puis dire, soient réunis, pour prendre des expressions qui sont très anachroniques. Et alors, Clotilde a réellement existé, puisqu'on connaît sa tombe. Elle a été enterrée, sa tombe a été ramenée à Paris, à côté de celle de son mari, sur la montagne Sainte-Geneviève, dans l'église sur laquelle est le Panthéon maintenant. Et Clotilde était la nièce, enfin une fille de roi burgonde, bourguignon, qui a été oxy par son propre frère. Et donc, elle était la nièce du roi des Burgondes régnant, quand Clovis est lui-même devenu roi des Francs. Et elle a été approchée parce qu'il y avait des échanges d'ambassade. Et ce qu'on raconte, c'est qu'un envoyé de Clovis a repéré cette jeune personne comme étant, dans toutes les vertus, naturellement, belle, ça, mais instruite, c'est très important, instruite, et également de profession, de confession catholique romaine, catholique nicéenne, dans un milieu, dans une cour qui était elle-même arienne. Même si c'était un arianisme, à mon avis, pas très dynamique, pas très arien. Un arien, pas très arien. Mais enfin, ça n'était pas le catholicisme nicéen. Et donc, elle a été, d'une certaine manière, pour parler de façon un peu vulgaire, elle a été ravie, à tous les égards, elle a été ravie parce qu'on l'a capturée, on l'a prise presque en otage, et elle a été ravie aussi d'échapper, je pense, à ce milieu. Elle a été poussée par les évêques de Burgondie, qui étaient des évêques romains, il y avait peu d'évêques ariens. Il y avait une majorité d'évêques romains nicéens, qui sont d'ailleurs pour certains partis avec elle, en tout cas pour la mener jusqu'auprès de Clovis. Elle a apporté donc d'abord une alliance avec les Burgondes après une guerre qui avait été très difficile. Et en plus, elle apportait une foi, comment dirais-je, elle était la meilleure... la meilleure catéchèse, c'était elle qui pouvait la prodiguer parce qu'elle était très près de son catéchumène. Et donc, dit-on, c'est elle qui, à la demande de Rémy, ou de conserve avec Rémy, a instruit Clovis des choses de la foi chrétienne, en tout cas de façon schématique, mais elle a joué un rôle dans la conversion qui a été ensuite exaltée parce que cette figure féminine a permis...
Ce rôle, Laurent Taissy, Il est réel, ce n'est pas une légende.
La personnalité de Clotilde n'est absolument pas une légende. Et le fait qu'elle ait contribué, qu'elle ait concouru à la conversion de Clovis, est certain autant qu'on peut l'être. On n'a pas de photos et de reportages. Mais on voit bien que les événements se produisent de telle façon, ils cheminent de telle façon, que la présence de Clotilde est tout à fait vraisemblable. D'autant plus qu'avant même que Clovis soit baptisé, il a autorisé le baptême des deux fils qu'il a eu avec Clotilde avant son propre baptême. Et d'ailleurs, ça a créé des ennuis parce que le premier est mort tout de suite après son baptême et Clovis a dit « Écoute, ton Christ, il est quand même pas très fort ». Et l'autre a failli disparaître aussi et il a été rattrapé par les cheveux. Mais déjà, il y avait une imprégnation à la cour, dans le palais, dans l'entourage proche de Clovis qui prédisposait. D'autant plus que, mais là, sur les sentiments personnels, c'est toujours difficile de parler, on ne connaît pas d'autres concubines, d'autres femmes à Clovis. Or, dans le système des rois des Francs, c'est même impensable. Parce que pour avoir des fils, il faut avoir beaucoup de femmes. Vu l'extrême mortalité, Clovis avait eu une femme d'une concubine dont on connaît le nom, qui s'appelait Basine, qui venait sans doute du royaume de Cologne, et qui s'appelait Thierry. Mais il n'a jamais été polygame. Donc cette femme était morte quand Clotilde a épousé Clovis, et on ne lui connaît pas, ça a duré quand même 30 ans, on ne connaît pas d'autres femmes, ce qui est très rare.
Ce qui est extraordinaire pour l'époque.
Extraordinaire, c'est rare.
Oui,
particulièrement. Alors, comment l'expliquer, je ne sais pas, mais c'est rare. Et c'est sympathique, rétrospectivement.
Clotilde et l'Élise de France.
Oui.
Il y a un lien entre les deux, puisque il y a une légende. On raconte que les lys ont été apportés dans un monastère créé par Clotilde.
Ah oui, alors ça c'est extrêmement tardif.
Voilà, j'en parle parce que c'est un couvent ou un monastère qui se trouve dans un vallon qui est merveilleux, s'appelle Joyenval, et qui mérite son nom, parce que ce vallon existe, on peut y aller se promener.
Voilà.
J'encourage les auditeurs à aller se promener à Joyenval, parce que c'est d'une beauté.
C'est près de Conflans-Sainte-Honorine.
Alors, Joyenval, c'est en lisière de la forêt de Marly,
voilà.
Entre la forêt de Marly et Saint-Germain. C'est un endroit merveilleux.
Aller à Joyenval, une abbaye qui date du XIIIe siècle et qui a été dotée par Saint-Louis.
Alors, comment ça, c'est cette légende des listes de France
à Joyenval, elle prend place dans un contexte particulier qui est la guerre de Cent Ans. Il s'agissait à ce moment-là, c'est-à-dire à partir des années 1340, et ça a duré un siècle, Cent Ans, juste dans les années 1435, 1440, eh bien, la légitimité des rois de France a été mise en doute. Parce que le dernier des fils de Philippe le Bel, Charles le Bel, mort en 1428, n'avait pas de fils pour lui succéder. Et donc, bon, c'est le processus de la guerre de Cent Ans que chacun connaît, j'imagine. Et donc, il a fallu chercher un ancrage dans la tradition, de façon à légitimer les Valois, les premiers Valois, sur le trône de France, à la couronne de France. Et pour cela, eh bien, on a été chercher, si vous voulez, dans le fourniment, dans le fond de cuve, de la royauté franque devenue française. Et on a trouvé Clovis. Alors, à Clovis, on a attribué, c'était le premier roi sacré, il n'a jamais été sacré, naturellement, premier roi baptisé, ça c'est vrai, premier roi sacré, ça c'est pas vrai, mais premier roi à avoir brandi l'oriflamme contre les Alamans qui étaient assimilés à des Sarrasins, le premier à avoir guéri les écrouelles, le premier à avoir crié « Montjoie Saint-Denis », et le premier aussi à avoir eu sur son bouclier les fleurs de lys. Ces fleurs de lys étaient apparues un siècle et demi plus tard, au milieu du XIIe siècle, déjà sur les blasons de l'église de Reims. Et puis peu à peu, ils sont entrés dans le domaine royal. Le père de Saint-Louis, Louis VII, avait déjà aussi des fleurs de lys sur son manteau. Le grand-père de... Je vais me faire gronder. Le grand-père de Saint-Louis, Louis VII. Il y a le Louis VIII entre-temps, mais on n'en parle pas beaucoup. Et donc... Ces fleurs de lys, d'où venaient-elles? Eh bien, elles venaient forcément de Clovis, parce que Clovis, c'est ce qui a la référence absolue. Donc, on a inventé au XIVe siècle, mais ça avait déjà fermenté, si vous voulez. Puis c'est apparu qu'au moment d'une bataille décisive contre un roi qui était à la fois un roi sarrasin, un roi alaman, et en réalité un roi anglais avant la lettre, qui s'appelait Kodak, eh bien, un ange était venu dire à Clotilde, si tu remplaces les crapauds qui figurent sur le bouclier de ton mari par les trois fleurs de lys, eh bien la bataille sera remportée. Et en effet, la bataille a été remportée, une bataille totalement mythologique. Mais à partir de ce moment-là, les fleurs de lys ont fait partie du fourniment obligé de la royauté française. Et c'est par le biais de Clovis qu'elles ont été légitimées. Clovis a été un contributeur très important d'un point de vue idéologique, politique et dans l'imaginaire, très important de la guerre de Cent Ans. Sans Clovis, peut-être aurait-on été battu.
Laurent Thaïs, comment passe-t-on de Reims, lieu du baptême, à Reims, lieu du sacre?
Eh bien, on y passe, il faut aller vite.
Il nous reste 5 minutes.
En 5 minutes et en 2 siècles. C'est-à-dire que Rémy de Reims a laissé une empreinte ineffaçable parce qu'il a été ce n'est pas le premier évêque de Reims, mais en réalité, c'est le seul. C'est le seul qui compte jusqu'à l'époque des Carolingiens. Ses successeurs, on peut les citer, mais ils n'ont pas marqué le paysage spirituel et épiscopal. Et au IXe siècle, un grand évêque de Reims qui est archevêque maintenant, il n'y a pas d'archevêque à l'époque de Clovis, mais les archidiocèses se sont constitués peu à peu, Incmar de Reims, qui devient archevêque de Reims en 845, qui est resté plus de 32 ans, sur le siège de Reims, a voulu, en concurrence avec l'archevêque de Sens, qui détenait aussi des capacités à sacrer, il l'avait déjà fait, a voulu lier encore plus la dynastie des Carolingiens, dynastie alors qui, pour le coup, à l'époque, règne sur tout le monde occidental, et pratiquement jusqu'à Rome, même tout à fait jusqu'à Rome, eh bien, il a voulu lier la dynastie carolingienne, celle de Charlemagne, avec l'église de Reims. Et pour ça, mais par un processus qui avait déjà commencé avant, mais qu'il a mis au goût du jour, il a écrit une hagiographie, comme on dit, une vie de saint, de Saint Rémy. Il y en avait eu déjà d'autres, mais il l'a réécrite complètement en 868. Et dedans, il a inséré des éléments qui existaient déjà pour dire que l'huile dont Clovis avait été enduit, vous savez qu'après le baptême, il y a le signe de la croix qu'on fait avec le pouce sur le front et éventuellement sur les membres. Eh bien, cette huile, elle était celle qui avait servi à Reims pour baptiser, pour sacrer les rois des Francs depuis Pépin le Bref, premier roi des Francs à avoir été sacré, puisqu'aucun mérovingien ne l'a jamais été. Et donc, par un miracle dit de la colombe, eh bien, l'huile sainte a été apportée à Clovis au moment de son baptême, et ce baptême n'était pas autre chose qu'un sacre. Et donc, le baptême et le sacre ont eu lieu de façon quasiment concomitante. Il a donc rabattu le sacre des Carolingiens sur le baptême des premiers mérovingiens, et cette cérémonie du baptême sacre, le sacre a pris le pas sur le baptême, parce qu'on ne sait pas du tout quand a été baptisé Charlemagne ou Charles le Chauve, mais on sait très très bien comment ils ont été sacrés à Reims, mais pas toujours à Reims, et peu à peu, grâce à cette fiction qu'il ne se trouvait que la Sainte Ampoule ne se trouvait qu'à Reims et nulle part ailleurs, il était impossible que le sacre eût lieu autre part qu'à Reims, alors qu'il avait eu lieu dans beaucoup d'autres endroits avant et encore quelques fois après. Et donc, ce lien entre le sacre des rois des Francs, et plus tard des rois de France, et de l'Église épiscopale de Reims, a commencé d'être noué très fortement par Ecmar de Reims, et un siècle plus tard, il n'est plus question d'aller ailleurs.
Laurent Tess, il ne nous reste que deux minutes pour évoquer l'œuvre législative de Clovis, et notamment cette fameuse loi celtique dont vous nous avez expliqué au début de notre entretien qu'elle ne date pas de Clovis.
Alors, pour aller très très vite, à l'époque barbare, c'est-à-dire Clovis un peu avant, un peu après. La législation, chaque peuple possède sa législation. Il y a la loi des Bavarois, il y a la loi des Bourguignons, il y a la loi des Visigoths, il y a la loi, etc., etc. Et puis il y a la loi des Francs saliens. Et donc, on pense que dans les années 450-470, eh bien, une loi salique, Pacta Salica, la loi salique, a été mise par écrit, mise en ordre, sur le modèle romain, pour les Francs, pour les peuples saliens. Et donc Clovis, ensuite, l'a refaire et promulgué à la fin de sa vie, dans les années 510-511. De là, consignée comme celle-là, elle a été aussi ensuite transmise aux Carolingiens comme un élément constitutif de leur législation. Ils l'ont fait encore réécrire, dans un latin d'ailleurs meilleur, avec des prologues et des commentaires, pour qu'elle soit plus intelligible qu'elle ne l'était, puisqu'elle avait été écrite 300 ans auparavant. Et de là, enfin, elle a été complètement réinterprétée, elle a été retrouvée et réinterprétée pendant la guerre de Cent Ans, pour les raisons que j'ai dites, afin de justifier là aussi le fait que le royaume de France ne pouvait pas être transmis à une femme, parce qu'il était écrit dans la loi salique, mérovingienne puis carolingienne, la terre salique ne peut pas aller à une femme. La terre salique, personne ne savait ce que c'était. Mais au XIVe siècle, on dit la terre salique, ça veut dire le royaume de France. Et donc, terra salica égale regnum francier, pas pour les femmes, comme le prétendant Édouard III est le fils d'une fille de Philippe le Bel, il n'a droit à rien, parce que les femmes ne peuvent rien transmettre, et elles ne peuvent rien transmettre parce qu'elles ne possèdent rien.
Mais cette loi salique a été retrouvée au XIVe siècle, il nous reste une minute à peine, a été retrouvée au XIVe siècle, elle était écrite, on l'a retrouvée, un document écrit.
Oui, bien sûr, elle était consignée, mais personne n'avait intérêt, parce qu'on ne comprenait même pas, on n'en avait pas besoin.
C'est ça.
Et donc ce sont des savants qui, à Saint-Denis, dans les archives de Saint-Denis, c'est un moine de Saint-Denis qui l'a retrouvée, qui a dit, voilà comment on pourrait s'en servir. Terra Salica égale Royaume des Francs. Alors, vous voyez, quelle magnifique idée! Les Anglais n'ont rien à poser à ça.
Eh bien, Lantès, un très grand merci pour toutes ces explications sur Clovis et sur le Royaume des Francs à travers votre livre de la collection Bouquins, Roi des Francs, le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux, et dans lequel se trouve ce livre passionnant que vous consacrez à Clovis. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous
Merci
en direct
vous.
Ce soir. Et Laurent, j'espère que vous reviendrez pour nous parler de Madame de Staël. Nous franchirons seulement quelques siècles. Très bonne soirée.
Avec vous, c'est facile.